Chapitre 10. Rose était une femme bien en chair, aux bras puissants. Elle avait des cheveux châtains foncés, très bouclés, et de grands yeux noisettes. « Alors ? » demanda-t-elle. « Vous avez été une patiente de Jill Davant, n'est-ce pas ?» dit Agatha. « Oui ? Il y a des choses que vous pouvez nous dire ? Comme quoi ? Eh bien, par exemple, est-ce qu'elle aurait essayé de vous faire chanter ?»« Non ? » dit Rose. « Mais elle m'a menacé de me poursuivre en justice. » Je n'étais pas d'accord pour la payer. Vous comprenez? J'avais une épaule bloquée et John lui en a touché un mot. Elle n'a fait ni une ni deux, elle m'est tombée dessus à la porte de la cuisine en prétendant qu'elle pouvait me soigner. Alors j'ai pris rendez-vous et je suis allée la trouver. Elle m'a plus ou moins malaxé, une sorte de massage qui n'a pas duré plus de 5 minutes. Puis elle m'a réclamé 60 livres. Mon épaule n'allait pas mieux et je l'ai envoyé se faire, vous voyez ce que je veux dire. Elle m'a dit que nous nous reverrions devant le juge des petites créances. Je lui ai répondu « Pourquoi pas ? On épluchera toutes vos qualifications bidons. » Du coup, elle s'est mise à crier qu'il était dangereux de la contrarier. Je suis partie, j'ai trouvé un acupuncteur à Shipston & Store et il a été formidable. Ensuite, j'ai dit à tous ceux qui voulaient bien m'écouter que cette Davant n'était qu'une fumiste. « Et c'est arrivé quand ?» interrogea Agatha. « Juste avant qu'elle se fasse assassiner. Vous avez vu d'autres personnes à son cabinet ?» Victoria Bannister. Je suis partie en trombe et je suis tombée nez à nez avec elle. Elle était plantée près du portail, mais je n'en ai rien pensé de particulier, parce que cette vieille bique passait sa vie à espionner les gens. Elle vous a dit quelque chose ? Insista Agatha. Non, elle s'est carapatée. Pauvre vieille Victoria, qui a bien pu avoir l'idée de la tuer ? Elle devait savoir quelque chose, dit Agatha. Ou du moins, c'est ce que son meurtrier pensait. Si vous entendez parler de quoi que ce soit, Rose, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Alors qu'il regagnait le cottage d'Agatha, le portable de Roy sonna. Il répondit et écouta attentivement. Agatha l'entendit promettre. D'accord, j'y serai dès demain. Quand il eut raccroché, il entama une petite gigue. J'ai gagné, je vais à Paris, chantonna-t-il. Je suis contente pour toi, dit Agatha. Mais tout à coup, elle se sentait abattue. Encore un week-end solitaire. Une fois chez elle, Roy lui dit avec allégresse « J'ai été bien inspirée de laisser mon sac de voyage dans la voiture. Je file tout droit à l'aéroport. » « Et pour un mot de remerciement, je peux toujours me brosser », songea tristement Agatha en le regardant partir en courant. Au moment où elle entrait chez elle, le téléphone se mit à sonner et elle se hâta de décrocher. « Bonsoir, Agatha. » dit la voix de Marc. « Vous savez, il se pourrait bien que j'ai découvert quelque chose. Je sais qu'il est tard, mais je peux faire un saut chez vous ?»« Bien sûr !» répondit Agatha. Et elle gravit deux par deux les marches jusqu'à la salle de bain pour se démaquiller et se remaquiller de frais. « Bienvenue au temps des révisions obligatoires » pensa-t-elle, se remémorant ses années de jeunesse où ses jambes lui faisaient l'effet d'être en acier et où ses soutiens-gorge étaient de vilains accessoires superflus parce que sa poitrine n'avait besoin d'aucun soutien. À présent, l'heure avait sonné des exercices pour raffermir les abdominaux, des séances à l'Institut de beauté, des horribles visites chez le dentiste pour blanchir ses dents, des massages chez Richard Rasdoll à Stowe-on-the-Wold et de tout le dur labeur pour retarder les outrages de l'âge. Soudain, elle se demanda pourquoi elle se donnait toute cette peine pour un homme qui ne l'intéressait pas. Et enfila une robe confortable en cotonnade et une paire de sandales à talons plats. Elle redescendait l'escalier quand on sonna et, en ouvrant, sursauta presque en constatant qu'elle avait oublié combien Marc Dreyter était bel homme. Elle le précéda dans la cuisine. « Asseyez-vous et dites-moi quelles sont les nouvelles, » dit-elle. « Eh bien, j'ai eu une conversation avec Gwen. J'ai appris que Jill Davant et elle étaient amies. Ça ne me surprend pas, » maugréa Agatha. Les criminels s'entendent bien entre eux. Agatha, Gwen est la plus gentille des femmes, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Comme vous voudrez. Continuez. Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre ? J'y viens. Figurez-vous que Jill avait confié à Gwen que quelqu'un avait menacé de la tuer. Oui, mais qui ? Gwen n'a pas réussi à le savoir. Agatha poussa un soupir. Ça ne m'avance pas beaucoup, dit-elle. Mais vous ne comprenez pas, protesta Marc. C'est forcément un de ses patients du village. Pas forcément. Ce pourrait être son ex-mari, par exemple. Je ne peux pas croire qu'un des habitants de Carsley ait été assez bon technicien pour poser des micros chez moi. mais ces patelins des Cotswolds sont envahis par des gens de la ville. J'en discuterai avec Mrs. Blugsby, mais je suis sûre que s'il y avait un nouveau résident qui réponde aux critères, elle m'en aurait parlé. Il faut que je file maintenant, dit Mark. Nous nous revoyons demain? Téléphonez-moi, répondit Agatha sans s'engager. Il la quitta, après l'avoir serrée affectueusement dans ses bras.
Eh bien, c'est une affaire qui pourrait marcher, se dit Agatha après son départ.
Je pourrais devenir Mrs. Director. Ce que je voudrais, ce serait me marier en blanc. J'ai toujours eu envie d'un vrai mariage selon la tradition.
Elle jeta un coup d'œil à la pendule, estima qu'il était trop tard pour déranger Mrs. Blugsby et décida d'aller la trouver le lendemain après l'office du dimanche.
Agatha avait eu l'intention sincère d'assister à l'office, mais elle dormit tard ce matin-là et ne se présenta à l'église qu'au moment où il venait de s'achever. Un assez grand nombre de personnes sortaient de l'édifice et elle attendit patiemment que Mrs. Blugsby ait fini de faire la causette avec quelques-uns des fidèles. Enfin, elle la vit s'approcher.
« On dirait que les serments de votre mari attirent les foules », commenta-t-elle.
« C'est parce qu'il se sert parfois de la Bible du roi Jacques et du vieux livre de la prière commune », expliqua l'épouse du pasteur. « Les gens viennent de tous les villages des environs. Le bon vieil anglais d'il y a 4 siècles et quelques, c'est tellement réconfortant dans ce monde plein d'incertitudes. Et si vous me suiviez au presbytère pour prendre un café ou autre chose ?»«
Volontiers, » dit Agatha,
« j'ai besoin de vos lumières. »
Agatha attendit qu'elle soit assise dans le petit salon avec un verre de sherry, puis commença.
« Mark Dreher est passé me voir hier soir. »«
L'homme de Dubaï ?»«
Oui. Pour lui, l'assassin doit être quelqu'un du village, il n'en démord pas. » Je lui objectais qu'à mon avis, aucun habitant de Carsley ne possède l'expérience nécessaire pour poser des micros dans mon cottage. Mais il m'a répondu, « Et les nouveaux résidents ?»«
Vous-même, vous voyez quelqu'un qui pourrait... Seulement un nouveau venu assez récent, qui s'appelle Mr. Bob Dell.
Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?
Il est retraité, mais je crois qu'il travaillait dans la banque. C'est un monsieur qui porte des robes.
Qui quoi ?
Eh bien, il aime s'habiller en femme.
Comment se fait-il que je n'en ai pas entendu parler ? S'étonna Agatha. Un travesti ? C'est curieux que la population ne l'ait pas chassé.
À vrai dire, c'est plutôt un homme qui attire la sympathie. Même Alf a appris à l'apprécier parce qu'il apporte des brassées de fleurs pour décorer l'église. Il contribue à toutes sortes d'œuvres de charité.
Où habite-t-il ?
Badger's Lawn, la villa victorienne dans Glebe Street, derrière la boutique du village. Elle appartenait à la vieille Mrs. Dell qui est décédée l'année dernière. Elle avait 94 ans, mais elle était très fringante pour son âge. Seulement, son esprit a commencé à battre la campagne et elle a fait rouler son fauteuil motorisé dans l'étang. On pense que c'est le choc thermique qui l'a tué.
Je suis surprise que vous ne soyez pas au courant.
Je devais être absente de Carsley, dit Agatha. Je pense que je vais aller trouver ce Mr. Bob Dell.
Ne faites pas de remarques sur sa tenue, recommanda Mrs. Blugsby.
Voyons, vous savez bien que je suis le tact incarné, dit Agatha.
Bob Dell lui ouvrit la porte. C'était un sexagénaire de haute taille, avec un grand nez et une toute petite bouche. Il portait une perruque blonde et beaucoup de maquillage et son corps resté svelte était enveloppé dans une longue robe du soir à motif floral. Agatha se présenta et il l'invita à entrer, la précédant dans le salon. La pièce était en grande partie occupée par un piano à queue couvert d'un long châle à franges. Sur des tables basses, il y avait aussi de nombreuses photographies dans des cadres en argent. Le sol était recouvert d'un tapis persan et, presque au milieu de la pièce, un hibou empaillé était debout sous un globe en verre. Un des murs soutenait des rayonnages bourrés de livres et le canapé et les fauteuils étaient en chintz de couleur vive. Agatha prit place sur le canapé et Dell, dans un des fauteuils face à elle, oubliant de tirer sur sa robe de sorte qu'il exposa une paire de forts mollets poilus dans des bas nylons et des escarpins blancs pareils à de grandes saucières. Puisqu'elle était l'incarnation du tact, Agatha demanda tout à trac.
Vous êtes néophyte en matière de travestissement.
Je ne m'y suis mis que l'année dernière, répondit Dell.
Pourquoi cette question?
Vous ne vous êtes pas rasé les jambes?
C'est quelque chose que je déteste faire. Raison pour laquelle je porte des robes longues.
Dites-moi, vous êtes toujours aussi impoli?
Excusez-moi, simple curiosité. Vous avez entendu parler de tous ces meurtres ?
Oui, naturellement.
Et vous vous y connaissez en électronique ?
C'est à peine si je suis capable de me servir d'un ordinateur. J'ai une aversion pour toutes les machines.
Tu n'en sauras pas plus, se dit Agatha. Mais cet homme a l'air d'un chic type. Seulement, il a besoin de conseils.
Ne lésinez jamais sur la qualité d'une perruque, dit-elle. Cette choucroute blonde que vous avez sur la tête, on voit tout de suite que ce sont de faux cheveux. Téléphonez à une boîte qui s'appelle Banbury Postiche et faites-vous envoyer leur catalogue. Vous prenez des hormones ?
Non, tout ça est trop récent.
Vous êtes drôlement direct. Je ne veux vous aider. Où avez-vous déniché cette robe ?
Elle était à ma mère, une femme très grande.
Eh bien, ça ne va pas du tout. Attendez une minute. Agatha prit son iPad dans les profondeurs de son grand sac. Je vais vous chercher une adresse à Londres.
Ah, nous y voilà.
Dans Lower Oxford Street, il y a une boutique qui s'appelle Tranis Delight. Ils vendent toutes sortes de vêtements et d'accessoires pour les hommes comme vous. Je vous note leurs coordonnées.
Très aimable à vous, je vais justement à Londres demain.
Agatha se leva. Puisqu'elle s'était fait une raison, non, décidément Bob Dell ne pouvait pas être l'assassin, elle était soudain pressée de partir. Mais sur le seuil de la porte, elle se retourna.
Pourquoi avez-vous choisi de vivre dans un patelin comme celui-ci ? Demanda-t-elle.
Vous ne seriez pas mieux à Londres où il y a sûrement des tas de messieurs comme vous ?
Il lui sourit.
Oh, vous seriez surprise des découvertes qu'on fait dans les villages de Cotswolds. Je ne suis pas seule.
Agatha s'éloigna, sentant se lever une petite brise froide. Bientôt, ce serait l'automne. En tournant le coin de Glebe Street, elle s'immobilisa soudain. Elle sentait dans l'air la présence du mal. Elle regarda frénétiquement autour d'elle, puis haussa les épaules et poursuivit son chemin. Avoir échappé il y a peu à la mort l'avait mise à cran. Passant devant la boutique du village fermée pour le dimanche après-midi, elle se ressouvint de sa visite des Cotswolds quand elle était enfant. Ses ivrognes de parents l'y avaient emmenée dans la caravane délabrée d'un ami et ne cessaient de se plaindre que la région était à mourir d'ennui. Pour sa part, elle l'avait trouvée enchanteresse et ainsi, était né son rêve de s'y établir un jour, qu'il avait poursuivi toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle le réalise à 50 ans passés. Mais à présent, dans ce jardin d'Éden, un serpent s'était insinué. Tout à coup, ce qui se mit à souffler ne fut plus une brise légère, mais un vent fort qui chassa les nuages gris en direction de l'est. Rentrée chez elle, Agatha caressa ses chats, les fit sortir dans le jardin et regarda s'il y avait des messages sur son répondeur. Elle n'en trouva qu'un seul, laissé par Mrs. Blugsby.
J'ai oublié de vous rappeler le concours de gâteaux samedi prochain. Je sais que vous aurez trop à faire pour en confectionner un, mais il y aura un éventaire pour la vente et je ne trouve personne pour le tenir. Vous pourriez m'aider ?
Agatha la rappela pour l'assurer de sa présence, à moins d'un imprévu. Ensuite, elle se demanda à quoi passer le reste de la journée, car elle en avait par-dessus la tête d'étudier ses notes sur les meurtres. Ce fut alors qu'on sonna à la porte. Agatha regarda prudemment par l'œil-ton et distingua Tony debout sur le seuil. Elle ouvrit.
« Entrez donc, qu'est-ce qui vous amène ?»«
Je passais seulement vous dire bonjour, » dit Tony.
« J'en ai assez de sortir avec des garçons seulement pour sortir avec des garçons, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais je crois savoir que vous avez un nouvel homme dans votre vie, que vous avez dîné au Georges. »«
Oh, Mark Dreter ? » ?»«
Oui, c'est vrai. Il est très bel homme et je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne le trouve pas plus attirant. Vous prendrez un café ?»
« Oui, s'il vous plaît. »
On sonna de nouveau.
« Servez-vous pendant que je vais voir qui c'est ?»
dit Agatha. C'était Bill Wong.
« Il s'est passé quelque chose ?» demanda Agatha.
« Rien du tout, » répondit Bill. « Je suis en congé aujourd'hui et j'ai eu l'idée de vous rendre une petite visite. »«
Venez dans la cuisine, Tony vient d'arriver. »
Mais une fois de plus, on sonna.
« Si c'est Simon, ne répondez pas !» lança Tony. « Cet enquiquineur a recommencé à me poursuivre de ses assiduités. »
« Mais dehors, il y a votre voiture et la mienne, » objecta Agatha. « Si c'est lui, je ne pourrais pas faire autrement que le faire entrer. »
Non, ce n'était pas Simon, c'était Phil Marshall.
« Je voulais voir comment vous vous remettiez, » dit-il.
« Entrez, Phil. Bill et Tony sont dans la cuisine. »
Rien ne semblait jamais perturber Phil, songea Agatha. Et son expression douce et ses cheveux blancs faisaient des merveilles quand ils interrogeaient quelqu'un, car tout le monde se sentait en sécurité en sa présence. Tony lui servit un mug de café.
Du nouveau sur les meurtres ?
Demanda-t-il à Bill.
Rien de rien. Et de votre côté, Agatha ?
Rien non plus.
Wilkes avait conçu l'espoir fou que nous pourrions tout mettre sur le dos de Justin Nichols et nous débarrasser de la presse. Mais quand Clive Tremond s'est fait tuer à Oxford, par exemple, Justin était à Londres et travaillait pour une grosse société. « Et Gwen Temple ?» questionna Agatha. « Désolé, » dit Bill, « mais dans cette direction, c'est un fiasco total. Nous n'écoutons même plus ce qu'elle dit au téléphone, sans compter qu'elle a des alibis en béton armé. Je n'ai jamais pensé qu'elle avait commis les meurtres de sa propre main, mais qu'elle s'était trouvé un complice pour le faire, » corrigea Agatha. « Comme son dernier galant ? Vous parlez de qui ?»« D'un certain Mark Dretter, un type très propre sur lui, en congé de l'ambassade britannique à Dubaï. »
« Ce n'est pas son galant !» protesta Agatha. « Au contraire, il me donne un coup de main dans mon enquête !»«
Ah bon ?» dit Bill. « Eh bien, on pourrait s'y tromper. On ne les voit plus nulle part l'un sans l'autre. »
Le visage d'Agatha s'assombrit. Mark n'avait-il fait ami-ami avec elle que pour rapporter à Gwen comment elle avançait dans ses investigations ?«
De toute façon, » dit-elle avec mauvaise humeur, « il est obnubilé par l'idée folle que l'assassin doit être quelqu'un de Carsley. »
« Et il y a des gens bizarres dans le village, Agatha ?» demanda Bill.
« Pas que je sache. Oui, il y a bien un travesti, mais de nos jours, ça ne choque plus grand monde. »«
Oh, Bob Dell !» intervint Phil. « Il s'est passé quelque chose de curieux avec lui. Il a voulu un agrandissement d'une photo de sa nièce. Je fais souvent des travaux photographiques pour les gens de Carsley, voyez-vous. Tout à l'heure, je lui ai téléphoné pour le prévenir que je le lui apportais. » Mais quand je suis arrivée, j'ai sonné et frappé à n'en plus finir, sans obtenir de réponse.
« Vous avez vu quelqu'un aux alentours ?» interrogea Agatha.
« Seulement un vieux comme moi, mais grand et fort, à vélo.
» Ça m'inquiète, » dit Agatha. « Je vais faire un saut jusque chez lui. Je ne le vois pas comme un homme qui pourrait vous dire de venir chez lui et ensuite ne pas vous ouvrir. »
« C'est moi qui y vais, » s'interposa Bill.
« Je vous accompagne, » insista Agatha. « Vous autres, attendez-nous ici. »
À mon avis, nous nous alarmons pour rien, dit Bill, tandis qu'Agatha et lui se hâtaient vers la maison de Bob Dell.
« Mais si nous n'y allons pas, je me ferai du mauvais sang toute la journée, » s'entêta Agatha.
Glebe Street respirait l'innocence et la tranquillité. Agatha sonna à la porte de la villa, mais personne ne répondit.
« Phil dit qu'il a frappé, » dit Bill. « Peut-être que la sonnette ne marche pas. »
Il cogna du poing sur la porte. Un vent léger bruissa dans la clématite qui grimpait près du battant, puis mourut.
Voyez si vous pouvez ouvrir cette porte, le pressa Agatha.
Le jeune inspecteur tenta de tourner la poignée.
C'est fermé à clé, dit-il.
Enfoncez-la!
Je ne peux pas, je n'ai pas de commission rogatoire. Essayons par l'arrière, il est peut-être dans le jardin.
Ils prirent un petit chemin qui s'enfonçait sur le côté gauche de la villa. Derrière, le grand jardin était une profusion de fleurs. Dans le patio, il y avait une table avec un verre de vin à moitié bu et un livre dont les pages se feuilletaient toutes seules dans la brise. Drapé sur une chaise près de la table, un châle à motif cachemire. S'abritant les yeux de ses mains, Agatha tenta de regarder par la porte-fenêtre fermée. De l'autre côté, elle distingua le salon où elle avait bavardé avec Bob.
« Vous voyez quelqu'un ?» lui demanda Bill.
« Non, personne.
Nous réessayerons plus tard, » décida Bill. « Je suis sûre que vous vous faites du mouron pour rien. »
Mais Agatha n'était pas prête à renoncer. Son souffle avait embué la vitre et elle l'essuya avec son mouchoir pour tenter encore de voir au travers. Puis, elle posa la main sur la poignée.
« C'est ouvert, » dit-elle.
Et avant que Bill ait le temps de l'arrêter, elle était entrée dans la pièce et appelait.
« Bob, vous êtes là ?»
Un faible son se fit entendre derrière le sofa. Agatha alla se pencher, puis poussa un cri aigu. « Bill !»
Bob Dell gisait sur le sol et son visage n'était plus qu'une masse de chair sanglante. Bill se hâta de s'agenouiller près de lui.
« Son pouls est faible !» dit-il.
Il appela une ambulance, puis le commissariat. Tony et Phil avaient entendu les sirènes et coururent jusqu'à Glebe Street, où ils arrivèrent au moment où un brancard transportait Bob Dell dans l'ambulance. Tony se fit du souci pour Agatha, car sa patronne avait le visage d'une blancheur de craie.
« Je pense que vous feriez bien d'aller à l'hôpital aussi, » lui dit-elle. « Vous venez encore de subir un choc terrible. »«
Ne vous en faites pas, je vais me ressaisir, » affirma Agatha. « Je pense que ce qui est arrivé à ce pauvre homme n'est pas sans rapport avec ma visite de ce matin. »
Wilkes s'approcha.
« Vous pouvez rentrer chez vous, Mrs. Raisin, » dit-il. « Nous passerons dans un petit moment prendre votre déposition. »
« Regardez-moi ça !»
dit Agatha en désignant l'équipe de la scientifique qui s'apprêtait à pénétrer dans la villa.
Des masques, la tête couverte, des combinaisons, des bottes. Si nous étions dans un téléfilm, ils auraient des cheveux jusqu'à la taille et des talons aiguilles.
Venez, lui enjoignit Tony en lui passant son bras autour de la taille. De retour chez Agatha, Tony tenta de la persuader de boire du thé très chaud avec beaucoup de sucre, mais elle réclama avec obstination un gin tonic.
Vous n'avez pas de glace, objecta la jeune femme.
Nom d'un sale parasonnette, qu'est-ce que ça peut faire?
Cria sa patronne excédée. Non sans réticence, Tony prépara le gin tonic. Agatha le siffla d'un trait et en demanda aussitôt un autre.
Vous ne croyez pas que vous devriez attendre d'avoir fait votre déposition?
Non.
Au grand soulagement de Tony, Agatha était encore relativement sobre quand Wilkes se présenta en compagnie d'un policier que ni l'une ni l'autre ne reconnurent. Ils prirent sa déposition, puis ils interrogèrent Phil. Il expliqua avoir vu un homme assez âgé, d'allure massive, quitter Glebe Street à bicyclette.
« Mais je ne l'ai pas bien regardé, » dit-il d'un ton d'excuse. « Il portait une casquette de baseball à la visière baissée. Sinon, survêtement gris avec un blouson gris par-dessus. Et des gants.
Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que Mr. Dell survivra à son agression et pourra nous dire qui l'a tabassé, » dit Wilkes.
« Assurez-vous qu'il y ait un agent en faction devant sa chambre à l'hôpital, » intervint Agatha.
« Vous n'allez pas m'apprendre à faire mon travail, » répliqua Wilkes d'un ton cassant.
« Vous êtes comme l'ange de la mort, vous savez.
Présentez-vous au commissariat demain matin et nous imprimerons votre déposition pour que vous la signiez. Ça vaut aussi pour vous, Mr. Marshall. »
Après le départ des deux hommes, Tony dit à Phil.
« Vous voulez bien attendre un moment avec Agatha? Je voudrais faire un saut chez moi pour prendre quelques affaires. Je pense que le mieux est que je reste avec elle cette nuit. »
« Je me débrouillerai très bien toute seule, » protesta Agatha.
« Vous ferez ce qu'on vous dit pour une fois dans votre vie de despote, » dit fermement Tony.
« Alors servez-moi un autre gin tonic avant de partir. »
« Filez donc, Tony, je m'en occupe, » dit Phil.
Quand le vieil homme revint dans la cuisine avec le verre d'Agatha, elle serrait ses bras autour d'elle et frissonnait.
« Qu'il fait froid !» gémit-elle.
« C'est parce que vous êtes en état de choc. Montez donc vous coucher. »
De nouveau, Agatha siffla son gin tonic d'une seule grande lampée, puis elle laissa Phil l'accompagner à l'étage. La tête vide, elle s'assit sur le bord de son lit tandis qu'il lui ôtait ses chaussures, puis il réussit à la faire se glisser sous la couette et brancha la couverture électrique. Quand il redescendit enfin, il se dit qu'il n'avait jamais vu Agatha aussi tourneboulée. Phil avait le sentiment d'être très redevable à Agatha Raisin. Qui d'autre aurait reconnu son talent de photographe et l'aurait engagé, bien qu'il ait dépassé les 75 ans? Il décida de téléphoner à Charles. Agatha avait une liste de numéros punaisés au mur près de son téléphone et il y en avait deux en face du nom de Sir Charles Fraisse, son fixe et son portable. À côté du numéro de portable, Agatha avait griffonné « Ne répond jamais ». Il composa donc celui du fixe. Ce fut le valet de Charles, un Suisse prénommé Gustave, qui décrocha. Il demanda à Phil qui il était et quel était le motif de son appel. Phil déclara que s'il prenait la liberté de téléphoner, c'était parce que Mrs. Raisin avait grandement besoin d'aide.
« Je regrette, mais Sir Charles n'est pas disponible !»
répliqua Gustave, et il raccrocha sans plus de façon. Il sursauta nerveusement quand Charles apparut derrière lui et lui demanda
« Qui était-ce au téléphone ?»«
Quelqu'un qui vendait des doubles vitrages !»
prétendit Gustave. Il détestait Agatha et redoutait souvent que son maître l'épouse. Mais Charles s'était rendu compte que les yeux de son valet avaient une façon bien à eux de rouler vers le plafond quand il mentait.
« Alors, qu'est-ce qu'elle me veut, Agatha »
demanda-t-il.
« Dites-moi la vérité, ou vous pouvez dire adieu à votre prime.
Elle est tout le temps dans vos jambes !»
bougonna Gustave.
« C'était un nommé Marshall qui disait qu'elle avait besoin d'aide. »
Phil fut soulagé de voir arriver en même temps Tony et Charles. À ce dernier, il raconta tout ce qui s'était passé, non sans ajouter qu'il craignait que les nerfs d'Agatha ne craquent sous l'effet de la pression qu'elle subissait. À présent qu'il y avait deux personnes pour veiller sur sa patronne, Phil se résolut à rentrer chez lui, dans le centre du village. Charles observa Tony, vit qu'elle était agitée et s'enquit.
« Qu'est-ce qui vous turlupine ?»«
J'avais un rendez-vous ce soir, » expliqua Tony, « mais j'ai dû l'annuler. »«
Pas encore un de vos vieux bons hommes ?»
demanda Charles, connaissant le penchant de la jeune femme pour les hommes d'un certain âge.
« Non, Il est étudiant en médecine et il n'a que quelques années de plus que moi. Un gentil garçon.
Téléphonez et annulez l'annulation, suggéra Charles. Nous n'avons pas besoin d'être deux pour une soirée de babysitting.
Agatha se réveilla une heure plus tard. Elle avait mal à la tête et la bouche sèche. Pauvre Bob Dell, pensa-t-elle. Puis elle s'assit brusquement dans son lit. Qu'est-ce que Bob lui avait dit au moment où elle partait ? Je ne suis pas seule. Entendait-il par là que quelqu'un d'autre à Carsley vivait déguisé en femme ? Lentement, elle se leva, les idées s'entrechoquant dans sa tête. Charles l'entendit aller et venir et monta à l'étage.
« Tu as l'air d'une épave !»
lui dit-il sans ménagement. Elle lui posa ses mains sur les épaules. « On t'a raconté ce qui est arrivé à Bob Dell ?»«
Oui, et Bill Wong a téléphoné pendant que tu dormais. Le pauvre Bob est mort à l'hôpital il y a une heure. »«
Mon Dieu, quelle horreur !»« Mais il y a une autre chose, Charles. » Bob se travestissait. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne vivait pas en ville pour y rencontrer plus d'hommes comme lui, il m'a répondu « Je ne suis pas seul. »
Et donc ?
Et donc, il y a peut-être quelqu'un dans le village que tout le monde prend à tort pour une femme.
Tu pues le gin rance, mon cœur. Prends vite une douche et descends manger quelque chose.
Quand Agatha apparut au rez-de-chaussée, douchée et portant des vêtements frais, elle semblait redevenue elle-même.
Je te prépare du thé et des tartines grillées, annonça Charles. Plus d'alcool pour ce soir.
J'aimerais bien un grand verre d'eau minérale, dit Agatha. J'ai la bouche comme les selles d'un gorille.
Tu as le chic pour les expressions choisies. D'accord, je te l'apporte. Mais commence par manger une tartine.
Qui a pu s'en prendre à Bob ? S'interrogea anxieusement Agatha. Il faut que je relise mes notes.
Le thé, les tartines d'abord, les notes ensuite, ordonna Charles.
Agatha croqua docilement dans deux tranches de pain grillé beurré qu'elle fit descendre avec du thé.
Bon sang, dit-elle. « Ça ne peut pas être Gwen Simple !»
Charles était d'accord.
« Même si tu adorerais que ce soit elle, » ajouta-t-il. « Qui avons-nous d'autre ?»«
Allons en parler avec Mrs. Blugsby. »«
Il se fait tard, Aggie. »«
Il n'est que 10 heures !» protesta Agatha.
« Tout de même, laisse cette pauvre femme tranquille jusqu'à demain !» conseilla Charles. « Et puis, j'ai su par Phil que tu devais te présenter au commissariat dans la matinée pour signer ta déposition. » Le mieux, c'est que tu te sortes toute cette histoire de la tête et que nous regardions une bêtise distrayante à la télévision pour te reposer un peu les méninges.
Ils s'affalèrent devant un épisode de NCIS Enquête Spéciale, même si Agatha se plaignit que les scénaristes exprimaient de toute évidence leur complexe d'Œdipe, car une fois de plus, c'était une histoire où le coupable avait des problèmes psychologiques avec son père. Puis, ils passèrent à un vieux film de kung-fu avec Jackie Chan, jusqu'à ce que Charles s'endorme et qu'Agatha monte se coucher. Elle régla son réveil, pourtant certaine qu'elle ne dormirait pas, et fut toute surprise d'être réveillée le lendemain matin par la sonnerie. Quand elle descendit, elle trouva Charles debout, habillé, qui l'attendait.
« C'est moi qui t'emmène au commissariat, » dit-il. « Tu es capable de penser à quelqu'un, de crier « Eureka !» et de foncer tout droit dans un réverbère. »
Au commissariat, Charles prit place dans la salle d'attente tandis qu'on emmenait Agatha signer la déposition que lui tendit Bill Wong. « Ce sera tout pour aujourd'hui, » dit Bill. « Vous feriez bien de prendre une journée de repos, Agatha. Pourquoi me regardez-vous si fixement ? Vous avez fouillé le passé de toutes les personnes dont nous savons qu'elles ont consulté Jill Davant ?
Naturellement.
Même celui de Mrs. Tweedy ?